Mondial Sport sur RFI. Olivier Prom.
Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RFI pour Mondial Sport. 30 minutes à peu près de résultats, d'analyse et de reportage avec les résultats marquants du jour. D'abord dans les grands championnats européens, gros plan évidemment sur le derby de Madrid cet après-midi, Atlético Real. Foot en Afrique avec le retour au pays, à l'USFA précisément, du Burkinabé Aristide Bansé, et un reportage au cœur du derby de Soweto en Afrique du Sud, Kaizer Chiefs Orlando Pirates. Au programme également du vélo au Cameroun, du rugby en Europe, de la boxe en France et du tennis en Belgique. Allez, Mondial Sport, on y va. Avec Hélène Avril à la baguette, bien sûr. Direction l'Espagne pour débuter notre tour d'Europe des résultats de foot du jour. L'Espagne et Madrid, évidemment, puisque le Wanda, on va dire ça comme ça, Metropolitano a été le théâtre cet après-midi du derby. L'Atlético recevait le Real. Et recevait également par la même occasion Pierre Chaperon, mesdames, messieurs. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
Alors ce sommet, dites-nous tout, a-t-il confirmé une tendance? Le Real en forme, l'Atlético un peu moins?
Oui, exactement. On ne peut pas vraiment contester la victoire du Real. Même Simeone a reconnu la supériorité de son adversaire. Grosse affiche, grosse ambiance sous le soleil madrilène et dans l'hiver espagnol. 3-1, l'addition est dure, mais elle est juste. Comment expliquer par exemple que Casemiro se retrouve seul aux 6 mètres sur un corner pour exécuter un retourné et ouvrir le score à la 16e minute, même si l'Atlético a répliqué sur un but de Griezmann, 8 minutes après, où le Français bien servi en profondeur par Correa est allé mettre un petit pont à Courtois. Pas de quoi déstabiliser les merengues, d'abord sur pénalty consécutif à une faute sur Vinicius à l'entrée de la surface. Ramos transforme par un tir à gauche avant la pause, et puis ensuite sur une contre-attaque, Modric lance bien Gareth Bale, le Gallois remplaçant au début du match, croise son tir, 3-1, nous sommes à la 74e minute, le match est plié. Écoutez Thibaut Courtois, très content après cette victoire contre son ancien club.
On se sent bien, on joue bien, et aujourd'hui, bon, tu sais que c'est un derby, tu sais que Atlético joue bien à la maison, qu'il ne casse pas beaucoup de buts, que quoi, c'est toujours un match difficile de gagner, et si tu gagnes 1-3 avec un bon jeu, avec des beaux buts, ben, c'est fantastique, on a 5 points de Barça, c'est bien toujours de mettre la pression de derrière et se battre jusqu'au final. Non, je sentais qu'on était bien dans l'équipe, on était calme, on était avec l'expérience, on savait, tu vois, mais tu sens que tout le monde a l'expérience, tu sens que tout le monde est tranquille, on se sent sûr de nous-mêmes, je crois qu'on a joué un bon match. Et aussi après la 1, on était tranquille et on a mis encore des buts, deux frappes à côté, mais sinon je crois qu'on a joué un match très très complet.
Thibaut Courtois sifflé, conspué durant toute la rencontre. Lui qui a été champion d'Espagne avec l'Atlético, c'était en 2014. Rencontre heurtée, 10 cartons jaunes, un rouge pour Partey, un peu limité, pas très inspiré le Ghanéen. Ce match, ça sera pas vraiment une référence pour lui. Expulsé à la 80e minute après un deuxième jaune, plutôt logique.
La très peu glorieuse ingratitude des supporters en ce qui concerne Thibaut Courtois, il a quand même fait les belles années de cet Atlético de Madrid. Un homme dans ce match, Pierre, le Brésilien Casemiro, il vous a tapé dans l'œil, comme on dit.
Ouais, il y en avait plusieurs qui m'ont tapé dans l'œil, mais celui-là en particulier, le numéro 14, que l'on trouvait vraiment à un niveau indigne de son rang. Il y a encore quelques semaines, on se demandait même si le jeune Marcos Llorente n'allait pas lui prendre sa place. Eh ben non, il revient très fort, toujours aussi présent, toujours ce petit vice. Aujourd'hui, il a été partout, il a assuré défensivement, offensivement. Le Brésilien est en confiance. Pour preuve, se retourner, donc, qui a amené l'ouverture du score. Pour As, Casemiro a été partout. C'est un poulpe, selon le quotidien madrilène. Mais globalement, Olivier, le Real, le Real est en forme, en place tactiquement, techniquement. Comme on l'expliquait il y a deux semaines, ici même dans Mondial Sport, l'odeur de la Ligue des Champions a ouvert l'appétit du club. Et le Real est prêt pour son match de 8e de finale aller contre l'Ajax. Ça sera mercredi. C'est la 5e victoire de rang en championnat pour les merengues. L'Atlético lui enchaîne avec un second échec de rang en Liga. Beaucoup de doutes pour les colchoneros qui recevront la Juve dans une dizaine de jours en Ligue des Champions.
Belle affiche, Atlético-Juve. De toute façon, 8e de finale de Ligue des Champions. Ça commence dès mardi sur RFI avec Antoine Grenier et Hugo Moissonnier, Manchester United, Paris Saint-Germain. Il y avait aussi un duel intéressant, franco-français. D'un côté, Antoine Griezmann. De l'autre, Karim Benzema. Duel d'attaquant pur qui a tourné en faveur du numéro 9 du Real.
Oui, mais c'est paradoxal. Si Griezmann a marqué, Benzema a joué à un très haut niveau encore une fois. Il lui manque peut-être un but ce soir pour que la soirée soit complète. Mais l'ancien Lyonnais a encore éclairé, orienté le jeu. La presse espagnole continue sa lune de miel avec lui. Marca nous explique qu'il améliore chaque ballon qu'il touche. Griezmann lui était un petit peu en dedans, loin d'être son meilleur match. Un jour à oublier selon Mundo Deportivo.
Un jour à oublier également pour un autre Français, Pierre, champion du monde aussi, Thomas Lemar.
Oui, le Français a semblé perdu dans ce derby de la capitale. Peut-être son plus mauvais match depuis qu'il est à l'Atleti, remplacé à l'heure de jeu par Vitolo. Mauvais match également pour Lucas Hernandez qui aurait pu se faire expulser sur une intervention très musclée sur Carvajal. Enfin, Varane a été comme son partenaire de la défense, Sergio Ramos, un patron.
Un mot du classement pour terminer, Pierre, un mot du classement de cette Liga.
Oui, parce que Thibaut Courtois en parlait tout à l'heure. Le Real Madrid prend la deuxième place du classement à 5 points du Barça et 1 point d'avance devant son adversaire du jour. On parle du Barça, les Blaugrana vont à Bilbao, c'est demain. Bilbao 12e du classement, un match facile. Pas forcément. Toujours compliqué d'aller à San Mamés. On notera le retour de Ousmane Dembélé dans le groupe, présent comme Messi. Reste à savoir si les deux joueurs débuteront le match. Il y a des légers doutes pour l'Argentin, blessé la semaine dernière contre Valence.
Merci Pierre Chaperon. Bonne fin de soirée du côté de la Puerta del Sol à Madrid, la Liga, Madrid-Barcelone. On en reparlera lundi, bien sûr, chez la Dame, dans Radio Foot International. Soyez là. En attendant, on enchaîne avec l'Angleterre, d'abord, dont on parlera plus longuement demain, dimanche, à l'issue de l'affiche du week-end entre Manchester City et Chelsea. Des Citizens qui ont une petite pression, car Liverpool, cet après-midi, a repris 3 longueurs d'avance en tête, à la faveur d'un succès 3-0 sur Bournemouth. Mané et Salah ont marqué. 3 jours avant d'accueillir le Paris Saint-Germain en 8e de finale de la Ligue des Champions, Manchester United a poursuivi sa folle série d'invincibilité. Un nul, 10 victoires depuis le 16 décembre ce samedi. Succès 3-0 chez l'avant-dernier Fulham. 3 buts français, 1 pour Martial, 2 pour Pogba. Paris, dont on va parler dans quelques secondes, est prévenu. Manchester United, 4e, 1 point devant Chelsea qui joue demain donc. Et Arsenal qui est allé s'imposer chez la Lanterne Rouge Huddersfield, 2-1, grâce à des buts du Nigérian Aiwo et du français Lacazette. En France donc, le Paris Saint-Germain a gagné lui aussi, mais ce n'est pas très original en Ligue 1, et ce fut même laborieux, 1-0 face à Bordeaux, but de Cavani sur pénalty. Le problème, c'est que l'Uruguayen est sorti sur blessure dans la foulée, blessure musculaire nous dit-on, et ça pourrait être une très mauvaise nouvelle, voire catastrophique pour Thomas Tuchel s'il devait être absent à Manchester mardi. Déjà sans Neymar, l'affaire s'annonce plus compliquée encore que prévu. Sans Cavani, ça scorcerait vraiment, et ce d'autant plus que son remplaçant potentiel, le Camerounais Choupo-Moting, a semblé bien léger, c'est le moins que l'on puisse dire, face au Bordelais. En Italie, la Juve ne joue que ce dimanche, mais elle sait déjà qu'en cas de succès à Sassuolo, 11e du Calcio, elle portera son avance sur Naples à 11 longueurs. Ce samedi, en effet, les Napolitains ont été tenus en échec. 0-0 à la Fiorentina, 3e. L'Inter Milan est à 9 points du Napoli après sa victoire 1-0 à Parme il y a quelques instants. Enfin, en Allemagne, Dortmund pourrait s'en mordre les doigts. Les hommes de Lucien Favre menaient 3-0 chez eux face à Hoffenheim à un quart d'heure de la fin, et ils se sont fait rejoindre concédant le nul 3 partout. Ils enchaînent un troisième match de rang sans succès. Du coup, le Bayern Munich, vainqueur 3-1 de Schalke, revient à 5 points, 3 de plus que Mönchengladbach, 3e, et battu à domicile 3-0 par le Hertha Berlin avec un but de l'Ivoirien Kalou. Voilà pour le foot en Europe, le foot en Afrique, Cédric de Oliveira. Bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Vous allez nous parler de la CAN des moins de 20 ans, la CAN des juniors en quelque sorte, qui a lieu en ce moment au Niger et dont on connaît depuis aujourd'hui les demi-finales.
Et le Sénégal affrontera l'Afrique du Sud et le Mali défiera le Nigeria. Les jeunes Maliens, derniers qualifiés, qui ont arraché leur qualification cet après-midi en dominant le Ghana 1-0 grâce à un but d'Adji Dramé. Ils terminent donc 2e du groupe B. Contrat rempli pour les joueurs de Mamoutou Kané, l'entraîneur qui s'avoue évidemment cette qualification et qui espère bien récidiver ce genre de performance mercredi face au Nigeria.
Je suis très ravi. La qualification n'était pas assurée. C'était pas assuré avec une équipe de Ghana techniquement, physiquement présent. Et nous, on a eu la chance, il faut le dire, on a eu la chance de marquer un but. Donc bravo aux joueurs parce qu'ils ont aussi résisté, marquer un but et défendre ce but. Je disais au départ que le Mali n'était pas favori, c'est vrai. Ce match pour moi est plus difficile que le match contre le Nigeria. On prend match par match et on va voir les jours J. C'est ce qui va se passer.
Voilà, Mamoudou Kané au micro d'Ousmane Keïta. L'autre match du jour était sans enjeu, mais il a vu la large victoire du Sénégal, déjà qualifié face au Burkina Faso, qui était lui éliminé. Un succès donc 5 buts à 1. Sénégal, Afrique du Sud et Mali, Nigeria auront lieu à mercredi.
Allez, on part au Burkina Faso, Cédric, pour s'intéresser au retour, on l'a dit, d'Aristide Bansé dans son pays natal.
L'attaquant des Étalons qui a décidé de rejoindre l'Union Sportive des Forces Armées pour les 6 prochains mois. Bansé avait pourtant eu des contacts avancés avec Oroya, le champion de Guinée en titre. Mais à 34 ans, il s'est donc offert un nouveau défi avec les militaires de Ouagadougou. Je vous pose une devinette, Olivier. Devinez, c'est le combienième club d'Aristide Bansé dans sa carrière?
47e, 48e?
Bah voilà, presque. En tout cas, c'est le 21e club de sa carrière. Bansé, il a joué en Côte d'Ivoire, en Belgique, en Ukraine, en Allemagne, mais aussi en Finlande et même en Lettonie. Voilà, un véritable globe-trotteur. Bansé qui était libre depuis son départ mouvementé du club d'Al-Masri en Égypte. En tout cas, du côté de l'USFA, on est ravi d'avoir attiré un buteur de la trempe de Bansé, comme a pu le constater Gabriel Barrois.
Aristide Bansé s'est engagé cette semaine au Burkina Faso avec l'USFA, l'Union Sportive des Forces Armées. Pour une durée de 6 mois, il compte bien se refaire une santé dans le Faso Foot et surtout retrouver la joie de rejouer au football.
Moi, je pense que le plus important, c'est de jouer. J'espère que ça va me réussir, mais sinon... Je suis venu ici, c'est pas l'argent. Voilà. C'est parce que j'aime le football. J'ai envie de jouer, j'ai envie de revenir à mon meilleur niveau. Donc c'est pourquoi j'ai fait ce choix. Jouer au Burkina, essayer de montrer encore ce que j'ai. Je pense que je suis venu ici, c'est pour passer un message et donner surtout l'exemple.
L'équipe militaire qui pointe à la 4e place du championnat national à 12 journées de la fin mise énormément sur l'expérience et la combativité de l'international burkinabé pour briguer le titre qui lui échappe depuis une bonne dizaine d'années. Les convictions du président du club, William Kambari.
On est 4e à 12 journées de la fin et il nous faut un joker pour nous permettre d'atteindre cet objectif-là. Et quoi de plus normal que d'aller chercher Bansé quand on sait le rôle qu'il joue même en équipe nationale en tant que joker et toutes les valeurs intrinsèques qui incarnent la personne de Aristide Bansé.
L'entraîneur Kamou Malo accueille pour sa part avec satisfaction un joueur exemplaire capable de transmettre son dynamisme à l'USFA et d'apporter de la visibilité au championnat national.
Au-delà du fait que ce soit un joueur de l'USFA, ce garçon va permettre en tout cas de donner une meilleure visibilité en tout cas au championnat burkinabé. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et je lui dis merci pour ça.
La présence du géant attaquant de 1m93 des Étalons au sein de leur équipe contente plus que jamais les supporters de l'USFA. Gabriel Barrois, Ouagadougou, RFI.
Voilà pour Aristide Bansé qui pourrait peut-être faire ses débuts avec son nouveau club dès demain, dimanche. L'USFA est en déplacement sur la pelouse de la AS Sonabel.
Après le Burkina Faso, on reste en Afrique, mais on file plein sud, Afrique du Sud, Johannesburg, pour parler d'un des matchs les plus importants de la saison.
Il s'agit du derby de Soweto qui s'est déroulé ce samedi dans une ambiance comme toujours survoltée au stade FNB. Les Kaiser Chiefs, 6e du championnat avant cette rencontre, recevaient leurs ennemis de toujours, les Orlando Pirates, 3e. Les deux équipes se sont séparées sur un match nul un partout devant 80 000 personnes. C'est l'un des plus grands derbys du continent qui déchaîne les passions, ce derby de Soweto. Il faut dire que ce match emblématique a toute une histoire, c'est presque une histoire de famille. Le reportage à Johannesburg de Claire Bargelès.
C'est une confrontation entre père et fils. Le père, Orlando Pirates, institution fondée à Soweto en 1937, a vu l'un de ses fils, le joueur Kaiser Motong, quitter le cocon familial en 1970 pour créer une équipe rivale au sein du township et lui donner son nom. Sidney, 65 ans et originaire de Soweto, a assisté au tout premier derby et depuis ne s'est jamais lassé.
C'était vraiment incroyable. Tout le monde a senti que le derby était né lors de cette première fois. Depuis ce jour, je suis un supporter des Kaiser Chiefs. Ces deux équipes, elles ont énormément de supporters à Soweto, mais aussi dans tout le pays. Les gens les suivent beaucoup.
Un stade aussi plein, c'est une chose rare à Johannesburg, même lors des matchs de l'équipe nationale ou de la Ligue des Champions. Pour le derby, l'ambiance est électrique. Maillot sur le dos et casque sur la tête, Dineo est venu avec son mari pour voir son équipe des Chiefs donner une leçon aux Noirs et Blancs.
Ils sont rivaux, donc tout le monde se doit de venir les supporter. C'est une question de fierté. Oui, on est considéré comme l'équipe fille, mais les jeunes vont enfin montrer aux vieux comment on joue au foot.
Si la rencontre a pu être ternie au cours des années par des bousculades qui ont fait plusieurs morts, les relations entre supporters, elles, sont très amicales. Noir, or, blanc, les couleurs des deux équipes se mélangent sans problème. Pour Nkaniso, venu avec ses frères et sœurs, c'est aussi une histoire de famille.
On ne supporte pas les mêmes équipes. Mon père était pour les Orlando Pirates et ma mère pour les Kaiser Chiefs. Alors on vient tous ensemble assister au derby pour s'amuser. Et si les Kaiser Chiefs gagnent, la famille gagne. Si les Orlando Pirates gagnent, on gagne aussi.
Chaque action est vécue avec intensité, à coups de cris, de vuvuzela et de signes frénétiques de la main. Et pour les joueurs sur le terrain, c'est aussi un match un peu particulier, comme l'explique l'entraîneur des Pirates, Milutin Sredojevic.
De mon point de vue, un match de cette magnitude, c'est la même intensité que 10 matchs plus normaux. C'est extraordinaire. Ces matchs, cela nous fait avancer de plusieurs marches d'un coup dans votre développement personnel et dans le développement de l'équipe. À cause de tout ce qui entoure le match et de tout ce qui se passe sur le terrain, c'est une expérience incroyable pour nous.
Au fil des années, le match est devenu un véritable événement dans la saison qui dépasse le simple côté sportif, comme l'observe le commentateur Mark Gleason.
Je pense que cela vient de l'histoire des deux équipes. Du temps de l'apartheid, il n'y avait pas beaucoup de possibilités pour la communauté noire de sortir, de s'amuser, et l'une d'elles était le foot. La foule à l'époque était gigantesque. Et cela a grandi à partir de cela. Je pense que maintenant, c'est devenu un événement social que personne ne veut rater. Et je ne pense pas que beaucoup de spectateurs qui viennent voir le match soient des grands connaisseurs de foot. C'est sans doute devenu l'événement sportif le plus important de ce pays.
Si les Pirates dominent le derby ces dernières années, les Kaiser Chiefs ont encore une large avance avec plus du double de victoires depuis la naissance de cette rencontre au sommet. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Voilà pour cette rivalité entre les Kaiser Chiefs et les Orlando Pirates. À noter que le leader du championnat sud-africain pour le moment, c'est le FC Wits University qui compte 3 points d'avance sur Mamelodi Sundowns, le champion d'Afrique 2016 qui a tout de même encore 3 matchs en retard.
Allez, fini pour le foot, on enchaîne avec le cyclisme, Cédric, pour parler du Tour de l'Espoir, une course réservée aux coureurs de moins de 23 ans.
Oui, deuxième édition cette année d'une course qui avait lieu au Cameroun et qui s'est conclue avec la cinquième étape dans les rues de Yaoundé ce samedi. Le Rwandais Moïse Mugisha en a profité pour faire un joli numéro et s'imposer en solitaire avec plus de 2 minutes d'avance sur ses poursuivants. Au général, pas de problème pour l'Érythréen Jacob Debesay qui remporte donc cette course et qui évidemment était comblé à l'arrivée.
Je suis particulièrement heureux aujourd'hui. C'est difficile de l'expliquer, c'était très dur. Il y avait une grande pression, les équipes se contrôlaient, nous étions la cible. Toutes les attaques ont été annihilées, mais nous ne nous sommes pas laissés faire. Nous avons tenu bon et avons conservé tous nos maillots, et notamment le maillot jaune. Je suis un grimpeur, j'ai de grandes qualités dans ce domaine, toute mon équipe aussi, c'est ce qui fait notre force. C'était un jour important pour nous, surtout qu'il y avait une solide équipe d'Équateur qui a aussi de très bons grimpeurs. Elle a essayé de nous battre, mais ils n'ont pas pu.
Le vainqueur de ce Tour de l'Espoir au Cameroun, Jacob Debesay, qui succède donc à Joseph Areruya et qui vient confirmer l'excellence du cyclisme érythréen.
Les Érythréens qui ont remporté 3 des 5 étapes de ce Tour de l'Espoir et qui placent 3 coureurs parmi les 5 premiers. Joli tir groupé donc pour le pays qui finit logiquement en tête du classement par équipe, ce qui ne surprend pas Laurent Bezeau, le conseiller Afrique de l'UCI qui était donc sur ce tour.
Ça a permis de confirmer que l'Érythrée restait une nation phare du cyclisme africain. Elle a quand même remporté l'épreuve et elle l'a bien remportée. Bah, ça montre une fois de plus qu'ils sont très forts. Et eux, non seulement... Alors d'abord, le sport est le sport le plus populaire. Ils passent devant le football et puis ils ont énormément d'activités, énormément de courses. Donc les coureurs se confrontent déjà entre eux très régulièrement sur le sol érythréen, et puis après, ils vont dans toutes les épreuves internationales du calendrier continental. Donc voilà, après, on le retrouve, il y a une vraie politique axée sur le cyclisme.
Oui, comme au Rwanda. Satisfaction pour l'Érythrée. En revanche, le Cameroun est complètement passé à côté de l'épreuve qu'il organise.
Le premier coureur s'appelle Sadiku Kosoko. Il a terminé 35e à 21 minutes du vainqueur. Le Cameroun devant son public qui a fini dernier du classement général par équipe. Un tour difficile, mais pour Laurent Bezeau, ce n'est pas la seule équipe à avoir souffert.
Les Camerounais ne sont pas les seuls concernés, parce que si on voit les Béninois, ils sont abandonnés au bout de 3 jours. Si on prend même d'autres nations comme le Maroc, s'ils en ont un qui fait 9e du général, mais après c'était un petit peu plus dur. Le Rwanda, c'est pas mal aussi, mais peut-être qu'on attendait mieux. Mais il faut quand même souligner la belle victoire du coureur rwandais qui gagne seul aujourd'hui. Lui, il a vraiment fait un numéro. Voilà, il y a toujours des équipes pour lesquelles ça reste difficile. Le Burkina Faso, bon, malheureusement, le petit Daumont a rencontré quelques difficultés. Il a chuté hier dans le final, donc il a perdu beaucoup de temps. Et puis aujourd'hui, il a été victime d'une crevaison dans le dernier tour, alors qu'il était encore dans le peloton maillot jaune. Mais voilà, ouais, alors le Cameroun, c'est un peu la même chose, quoi. C'est quand on arrive sur ce niveau d'épreuve, ça reste difficile pour ces nations-là. Il faut qu'ils regardent un peu comment orienter peut-être différemment leur cyclisme. Ce que je leur dis souvent, c'est qu'ils manquent cruellement d'activité sur leur territoire, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal.
Voilà l'analyse du conseiller Afrique de l'UCI, Laurent Bezeau, qui était donc observateur avisé. Prochain grand rendez-vous sur le continent, le Tour du Rwanda dans 2 semaines. RFI sera bien entendu
avec Thomas de Saint-Léger. Merci Cédric de Oliveira. On se retrouve demain, bien sûr, à la même heure pour la même émission.
Absolument.
En rugby dans Mondial Sport avec le tournoi des 6 nations. 2e journée ce week-end, des 2 matchs dès ce samedi. Écosse-Irlande, 22-13. 3-1 pour les Irlandais à Murrayfield, entre des Écossais. Italie Pays de Galles, autre match du jour, victoire à Rome des Gallois, 26-15, ils prennent du coup la tête du tournoi. La France, elle, défaite piteusement la semaine dernière à domicile par les Gallois, après avoir pourtant mené 16-0 à la pause, elle ne joue que ce dimanche, chez son pire ennemi, à Twickenham, à Londres, contre l'Angleterre, donc on appelle cela le crunch, et autant dire tout de suite que le succès des Bleus là-bas serait miraculeux, tant les deux équipes semblent aux antipodes l'une de l'autre. Les Anglais, on le rappelle, sont allés s'imposer en Irlande samedi dernier, c'est dire s'ils ont fait le plein de confiance, contrairement aux hommes de Jacques Brunel, les Français. C'est donc un sacré combat qui s'annonce et un match à part, comme toujours, pour le capitaine des Bleus, Guilhem Guirado, au micro de notre envoyé spécial Éric Chorin.
C'est le match à marge de tous les autres. C'est une rivalité, c'est l'histoire aussi qui parle à ce match. Et pour avoir aussi quelques amis anglais, c'est vrai qu'ils affectionnent ce genre de match. Donc voilà, savoir si on va répondre présent sur ce match de rugby.
Oui, parce que ça s'annonce aussi un combat, un gros combat.
Ouais, un gros combat contre les Anglais, de toute façon, je vous mentirai pas si je vous dis qu'à chaque fois ça passe par du combat. Et avant tout sur l'agressivité pure et dure. On est prévenu, on s'est préparé de la sorte, maintenant à nous de répondre présent sur le début du match, parce que c'est ce qui va importer le plus.
Ouais, oui, Guilhem Guirado, avec l'espoir, au bout d'une victoire à Twickenham qui échappe aux Français depuis 2005. 14 ans déjà, la France s'était imposée alors 18-17, 6 pénalités de Dimitri Yachvili. Certains des acteurs de l'époque font aujourd'hui partie de l'encadrement. Le sélectionneur, Jacques Brunel, était alors adjoint de Bernard Laporte. Et deux de ses adjoints aujourd'hui, des adjoints de Brunel, le talonneur Sébastien Bruno et celui qui portait alors le numéro 8, Julien Bonner. Il travaille donc avec Brunel et Julien Bonner se souvient de tout cela. Et Éric Chorin lui a rappelé ce vieux souvenir.
Julien, il paraît qu'on peut gagner ici à Twickenham.
Vous en souvenez ?
Ouais, je m'en souviens, mais ça fait longtemps. Non, bien sûr qu'on peut. On peut quand on met les ingrédients qu'il faut, quoi. Et pour moi, le premier ingrédient, ça sera le combat et l'intensité qu'ils vont nous mettre. Moi, je me souviens que de ça. Ça avait piqué sévère et pendant 80 minutes, ça avait été dur à ce niveau-là. Et c'est le jeu anglais. Ils veulent d'abord faire mal à l'adversaire, comme ils l'ont fait face aux Irlandais la semaine dernière. Et c'est là-dessus qu'ils font la différence. Mais voilà, si nous, on rivalise pas à ce niveau-là, ça va être difficile. Ouais.
Ça s'annonce difficile, cette Angleterre-France, difficile pour les Bleus. C'est ce dimanche à 15h, temps universel à Twickenham. Après le rugby des hommes, celui des femmes. C'est d'ailleurs logique, puisqu'on vous le rappelle, nous sommes en plein week-end du sport féminin. Le rugby des femmes, donc, un sport en plein développement. Selon le World Rugby, l'instance fêtière du rugby mondial, le nombre de licenciées féminines a augmenté de 28% l'an dernier, soit 580 000 nouvelles joueuses dans le monde. Les premiers fruits d'un plan de développement mis en place l'an dernier par l'organisme international et qui court jusqu'en 2025. La France n'échappe pas à la règle et compte 21 000 licenciés, deux fois plus qu'il y a 8 ans. Parmi les clubs en progression, l'Union des Bords de Marne, dans le Val-de-Marne, qui gravit petit à petit les échelons et évolue depuis 2 ans en Fédéral 1, la 3e division du rugby féminin français. Thomas Moulin a bravé le froid et la neige pour assister à l'un de ses entraînements au stade Gabriel Péri de Vitry-sur-Seine. Reportage.
La tempête Gabriel vient tout juste d'arriver, mais il en faut plus pour décourager les Coyotes, le surnom des joueuses de l'Union des Bords de Marne. Elles sont environ une vingtaine ce soir-là. Pour Louise, cette motivation s'explique avant tout par un très bon esprit d'équipe.
On voit comment l'équipe se soude, passer des entraînements comme là, on est sous la neige, à avoir froid, c'est compliqué. Et qu'en même temps, bah, y a toujours un petit mot sympa, toujours une façon d'essayer de progresser. Quand l'équipe est vraiment soudée, qu'on a un but commun, on a envie de rester et puis de continuer l'aventure saison après saison.
Cette dimension collective, c'est justement ce qui lui plaît dans le rugby.
C'est un sport collectif. Moi, j'ai toujours aimé les sports co et c'est un sport aussi de contact où on se dépasse, où on est à la fois et technique et tactique, mais aussi énormément dans l'affrontement, dans la lutte. Donc, on peut être hyper polyvalente et tout avoir un tas de capacités différentes. Et en fait, tout ensemble, on est capable de réussir et de faire avancer l'équipe, quelles que soient nos qualités. Et ça, c'est ce qui m'a fait un peu venir au rugby.
Le plaisir est donc au rendez-vous malgré une fin d'année 2018 difficile pour le club. L'Union des Bords de Marne a perdu l'un de ses enfants, Nicolas Chauvin, qui venait à peine d'intégrer les espoirs du Stade français. À seulement 18 ans, il est décédé le 12 décembre dernier des suites d'un traumatisme cervical. Un sujet encore un peu tabou chez les joueuses, comme le confie Lorelai, la demi de mêlée des Coyotes.
Je pense que c'est une façon de se protéger et de ne pas avoir peur. Je pense que si on commence à se mettre ça dans la tête, on va avoir peur, on n'aura plus les bons réflexes, on va aller au contact plus doucement et c'est là qu'on se blesse. Donc c'est vrai qu'on n'en a pas parlé entre nous, on fait des minutes d'applaudissements. Évidemment, je pense que tout le monde lit les journaux, mais on n'en parle pas entre nous.
Selon une enquête Harris Interactive, 2/3 des parents n'envisagent pas d'inscrire leur fille dans un club de rugby, même si les bons résultats du 15 de France féminin, auteur du Grand Chelem lors du tournoi Destination l'an dernier, sont en train de changer la donne.
C'est médiatisé, ça commence à passer à la télévision, donc les filles elles s'aperçoivent qu'il n'y a pas que les garçons qui jouent. Elles s'aperçoivent que les filles ne sont pas dans le côté contact, violence, et du coup c'est vrai que ça rassure et il y a de plus en plus de filles qui font du rugby. Par exemple, cette année nous on a eu 15 débutantes, donc comme quoi le rugby s'exporte.
L'entraîneur des Coyotes, Pascal Douet, vit sa première saison à la tête d'une équipe féminine. Il est impressionné par la mentalité et la joie de vivre de ces joueuses.
Elles n'ont pas besoin de se taper la tête contre les murs dans les vestiaires pour rentrer motivées. D'ailleurs, c'est tout un spectacle. Quand on vient dans les vestiaires avant le match, c'est la musique, c'est l'ambiance, c'est la rigolade. Par contre, dès que ça sort des vestiaires, terminé. Il n'y a pas besoin de leur remonter les bretelles pendant une heure pour les motiver. Il n'y a pas besoin de jouer sur une corde sensible là-dessus. Et après les matchs, bien sûr, c'est les grandes fêtes, c'est les grandes troisièmes mi-temps. Je dois dire qu'au niveau des filles, les garçons, ils vont pas leur en apprendre beaucoup sur les troisièmes mi-temps. C'est très, très animé, quoi.
Une bonne ambiance qui devrait permettre aux Coyotes d'assurer leur maintien à l'issue de la saison et de pourquoi pas viser un jour la montée en deuxième division.
En reportage signé Thomas Moulin. On termine ce mondial sport avec du tennis. Tiens, chez les hommes, d'abord, pour vous dire que la finale du tournoi de Montpellier ce dimanche sera 100% française. Le français Pierre-Hugues Herbert sera opposé à Joe Wilfried Tsonga, qui se sont qualifiés donc tous les deux ce samedi après-midi. Puis chez les femmes, c'est le premier tour de la Fed Cup, la Coupe Davis féminine. Alizé Cornet est en Belgique et elle a apporté le 2e point d'une équipe de France qui en avait déjà marqué un grâce à Caroline Garcia. Elle mène 2-0 face à la Belgique et leur capitaine Julien Beneteau est aux anges.
C'est fantastique de se retrouver voilà à 2-0. Ce qui est top, c'est que les deux joueuses aujourd'hui ont répondu présentes, chacune à leur manière, chacune avec leur qualité, chacune avec leur passé de Fed Cup entre guillemets, et qu'elles ont été au-delà de ça, qu'elles ont été capables de trouver des solutions, de chercher des solutions et de les trouver. Et chacune à leur niveau, ce qu'elles ont fait, c'est top. Donc je suis vraiment très content d'elles aujourd'hui. J'ai kiffé aujourd'hui forcément. Il y a eu des moments où c'était top. Franchement, c'était un grand moment de bonheur, donc je suis super heureux pour les filles, encore une fois, pour mon staff, pour toute l'équipe. On est à 2-0, donc c'est fantastique. Après, ce que je leur ai dit tout de suite, là, en rentrant dans le vestiaire, je leur ai dit, on reste très, très mobilisé, très concentré, c'est pas fini, et demain, ça va être très difficile.
Oui, à suivre ce dimanche, un dernier résultat de boxe, le français natif de Dakar, Souleymane Sissoko, est devenu ce soir champion de France des super welter. On se retrouve demain à la même heure.